Bienvenue à tous. La CF Aquitania est donc ravie de pouvoir vous accueillir à la librairie Mola. Alors donc nous sommes ravis de recevoir pour la seconde fois notre collègue Camillo Ramirez, psychanalyste à Paris, colombien, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, qui va donc ouvrir pour nous son deuxième volet sur la question de la haine au XXIe siècle, et qui a donc choisi de parler sous le titre « Haine et pulsion de mort, logique d'une alliance du XXe au XXIe siècle ». Donc après nous avoir rappelé au fond la façon dont la question se posait au sortir du 19e, début 20e pour Freud, et bien aujourd'hui il aborde comment la question s'est posée pour Jacques Lacan au vu de ce 20e siècle qui a été une réussite encore plus grande qu'au 19e, question N. Vous allez voir qu'il va l'aborder de manière très concrète par un certain nombre d'événements, d'écrits, de témoignages. Et dans sa tension avec le 21e siècle, puisqu'il a une petite idée, il a une thèse qu'il nous exposera sur peut-être une autre forme, enfin ou plutôt une autre logique à l'œuvre dans la haine au 21e siècle par rapport au 20e. Donc nous pouvons vous dire qu'il a beaucoup travaillé cette question, vous allez l'entendre, nous lui laissons le temps pour, et ensuite nous pourrons discuter. Et Véronique Pantier, notre collègue de Périgueux, de Bordeaux aussi, membre de la CF, amorcera le feu des questions. À toi.
Bien, donc merci beaucoup à Rodolphe Adam et aux collègues de la CF Aquitania qui, avec cette invitation, trois conférences cette année, mais donne l'occasion de beaucoup travailler, beaucoup lire sur un thème difficile. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème sous un titre donc Rodolphe Adam vient d'évoquer. On pourrait difficilement faire plus ambitieux, n'est-ce pas, comme programme, hein? Donc je l'ai regretté un peu ce titre, voilà, avec qui ratisse comme ça très très large. J'ai beaucoup écrit, j'ai trop écrit, et donc j'ai dû tailler sur un bloc de glace pendant 3 jours parce que j'avais écrit une vingtaine de pages le week-end dernier. Et donc là j'en suis à 14. On va voir si on arrive à parler de tout ça pendant une heure. Si on n'arrive pas, ce n'est pas grave du tout, parce que la dernière partie, qui est la partie la plus délicate, c'est l'actualité, je vais l'aborder au mois de septembre. Ça, c'est vraiment le thème du mois de septembre. Et donc, comme l'a dit Rodolphe, entre les deux, entre septembre et mars, donc Freud, je parlerai plus de l'actualité au mois de septembre. Aujourd'hui, donc, une longue étape très lacanienne qui commence comme ça, qui commence donc avec une citation de Lacan dans son séminaire « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » le 24 juin 64. Il dit ceci, Lacan, « Je relève à ses propos une formule qui a eu sa valeur historique au XVIIIe siècle. Quand l'homme des Lumières, qui était aussi l'homme du plaisir, a mis en question la religion comme fondamentale imposture. Inutile de vous faire sentir quel chemin nous avons parcouru depuis. Qui songerait de nos jours à prendre ce qui touche à la religion sous cette parenthèse simpliste? On peut dire que jusqu'aux fins du monde, et là même où la lutte peut être menée contre elle, la religion, de nos jours, jouit d'un respect universel. » Voilà. Donc, fin de citation. Au lendemain des attentats du 13 novembre notre collègue psychanalyste Clotilde Leguil avait réagi par cette formule qui m'a frappé. Je la cite, « La haine est sans raison, mais elle n'est pas sans objet. » Dans ce texte vif qui prend appui sur les livres de Jacob Rogoncinski, « Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la terreur », elle extrait un terme que j'ai eu envie de retenir pour ma deuxième conférence cet après-midi à Bordeaux. La logique de la haine. Elle cite un élément propre à cette logique. Il s'agit toujours de s'attaquer à un ennemi caché sous l'apparence du bien et de punir sans limite l'autre, avec un grand A, qui serait responsable de la souffrance humaine. Donc c'est Rogoncinski qui parle. J'apprécie cette opposition qu'elle propose entre une causalité et une logique de la haine. La causalité est un terme glissant, périlleux, car il invite à trouver des motifs profonds qui rend la haine compréhensible, voire justifiable, du type des explications sociologiques où on dit « s'il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela », etc. Alors que de nos jours, c'est plutôt son illimité, dévastateur, son hors-sens aveuglant qui nous saute à la figure. Dire que nous nous intéressons plutôt à sa logique est une démarche bien plus psychanalytique, car depuis Freud et sa psychologie des masses, il s'agit bien de cerner les mobiles, la structure, la dynamique rigoureuse qui articule collectivement les plus sombres passions humaines. Dans un mouvement que nous nommons avec Bertolt Brecht depuis sa pièce de théâtre écrite lors les heures les plus funestes de l'Allemagne, l'irrésistible ascension. Bien qu'il ne s'y réfère pas, ce sont des termes que Lacan a repris dans ses passages connus qui clôt les quatre concepts fondamentaux, où il évoque les schémas de Freud sur la fascination collective qui était une réalité ascendante à l'heure où il écrivit cet article. Il s'agit de Hypnose et état amoureux dans la psychologie de masse. Et c'est aussi à propos de l'ascension de l'objet A, dernier chapitre du séminaire, dans notre monde, promu par les masses médias, sous les espèces de la voix et du regard, que Lacan parle du nazisme en termes d'une offrande, un dieu obscur, à quoi peu des sujets peuvent ne pas succomber, dans une monstrueuse capture. Ces passages du séminaire se poursuivent ainsi. L'ignorance, l'indifférence, le détournement du regard peut expliquer sous quel voile reste encore caché ces mystères, mais pour quiconque est capable vers ce phénomène de diriger un courageux regard, et encore une fois, il y en a peu assurément pour ne pas succomber à la fascination du sacrifice en lui-même. Le sacrifice signifie que, dans l'objet de nos désirs, nous essayons de trouver les témoignages de la présence du désir de cet autre, que j'appelle ici le Dieu obscur. Citation souvent évoquée dans l'orientation lacanienne, nous verrons plus loin ce qu'elle éclaire sur ce que les hommes sont prêts à faire pour faire exister Dieu. Dieu muet, Dieu opaque et inatteignable, c'est pour eux que l'accomplissement du sacrifice, d'une offrande meurtrière, se constitue comme seule preuve de leur existence, seule trace teintée de rouge de leur inhumaine volonté. Alors, j'ai appelé cette partie un couple redoutable, pour faire résonner donc l'alliance des deux termes de ma conférence. Ancré sur la pollution des morts, connecté aux exigences du surmoi, ainsi que nous l'avons vu la dernière fois, la haine concerne cette dialectique de rejet de ce que dans l'autre je localise comme étant les plus étrangers et qui m'est pourtant les plus proches. Car c'est du rejet de ma propre et inquiétante altérité à moi-même dont il est question. Plus qu'une haine de soi, c'est du rejet de sa propre altérité dont il s'agit. Celle qui est au centre de la subversion psychanalytique. Cette zone dans laquelle comporte d'étrangeté à soi-même est celle que Freud dessine comme l'horizon à rejoindre au cours d'une analyse. Sous forme d'une assomption, d'une reconnaissance dans « je suis ça ». C'est l'un des points fondamentaux du retour à Freud opéré par Lacan, car les psychanalystes post-freudiens ont majoritairement refermé la question, pris eux aussi par ces réflexes si humains qui consistent à vouloir repousser son propre sac pulsionnel dont l'arôme, l'odeur, peut laisser à désirer, par-delà les frontières du moi. Le fameux « le moi doit déloger le ça », prenant appui sur une identification à un analyste nickel-chrome, est devenu, peu après la mort de Freud, la promesse analytique. Pourtant, Freud a étendu très loin cette zone des responsabilités, répondant par l'affirmatif à la question de savoir si même les dormants devaient s'attribuer au réveil la responsabilité des actes méchants commis dans ses rêves. C'est un article, c'est son complément à la métapsychologie des rêves, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Cette reconnaissance de son propre dark side sous forme d'une réappropriation douloureuse du type « ces scénarios n'est peut-être pas les plus nobles et pourtant il est dément cru » est la première forme des traitements de la haine que propose la psychanalyse. À cette assomption, Lacan a donné les noms de rectification subjective, soit cette opération si coûteuse au par-l'être, l'invitant à troquer sa belle âme, toujours ahurie que le monde soit un tel bordel, contre une nomination de son être des jouissances, bien moins glamour et plus opaque. Aujourd'hui, j'ai rassemblé les deux termes qui figurent dans les titres de ces cycles de conférences sous forme d'une alliance, on pourrait dire aussi un alliage, non, comme avec les métaux, haine, pulsion des morts. Ce sont deux termes qui font couple, un peu à la façon de Mickey et Mallory, les natural born killers, ces tueurs nés des films de Oliver Stone, sémant la dévastation sur à peu près tout ce qu'ils trouvent sur leur passage sans cligner des yeux. Ces deux-là se sont bien trouvés depuis belle lurette, et la contamination par les verbes qui fait de l'homme un animal malade et éjecté de la nature y est pour beaucoup dans les succès de leur rencontre. Fini les parallèles cinéphiles, nous les savons, ces duos, ces disérieux, et de nos jours, l'agent des bien tristes choses. Nous allons tenter d'avancer en nous demandant ceci. C'était donc ce que j'ai envoyé en guise d'argument pour cet après-midi. Dans mon argument de ceci, le passage vers notre siècle comporte-t-il des manifestations de l'alliance haine-pulsion des morts qui s'inscriraient dans une logique autre que celle du XXe siècle? L'une de nos boussoles pour y répondre sera cette ponctuation d'Éric Laurent à propos de ce qu'on appelle les anticipations de Jacques Lacan. Je cite Éric Laurent, « La sortie de la civilisation patriarcale lui paraissait alors acquise. L'époque post-68 bruissait encore des propos sur la fin du pouvoir des pères et l'avènement d'une société des frères, accompagnée de l'hédonisme heureux, d'une nouvelle religion du corps. Lacan gâche un peu la fête, donc à l'époque, en ajoutant une conséquence qui passait alors inaperçue. Et donc c'est Lacan qui parle dans les à la fin de son séminaire au pire, séminaire 19, où il dit « Quand nous revenons à la racine du corps, si nous revalorisons les mots de « frère », sachez que ce qui monte, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à ses dernières conséquences, et qui, lui, s'enracine dans le corps, dans la fraternité du corps, c'est le racisme. » Deuxième partie, la haine selon Lacan. Je vais ouvrir cette partie en citant Jacques-Alain Miller dans son cours Extimité, 85, cours qui m'a été très précieux pour préparer ma conférence d'aujourd'hui, que je vous invite donc à lire. Ce sont surtout deux cours au mois de novembre voilà, qui sont remarquables sur la question de la haine et du racisme. Alors, qu'est-ce qu'il dit Miller ? Il dit ceci. Tout ceci, c'est simplement avouer que l'on veut bien de l'autre, que l'on veut le bien de l'autre à condition qu'il devienne le même. Lorsqu'on fait des calculs pour savoir s'il devra abandonner sa langue, ses croyances, sa vêture, sa parure, ce dont il s'agit, et c'est de savoir dans quelle mesure il abandonnera son autre jouissance, avec un grand A, c'est la seule chose qui est en question. Fin de la citation. Après les parcours que nous avons effectués chez Freud au mois de mars, je vous propose d'isoler maintenant quelques éléments structuraux sur la question de la haine chez Lacan. Si nous suivons les trois registres, nous pouvons avancer de façon certes sommaire que la haine est à distinguer de l'agressivité, laquelle, tout en lui donnant un substrat premier, s'inscrit plutôt dans ce que Lacan a appelé la tension imaginaire A', entre les sujets et ses semblables. rivalité qui tient surtout à la façon bancale dont le sujet parvient à obtenir, tant bien que mal, une première identification, à s'approprier sa propre image dans les miroirs, pas sans l'appui dans l'autre, pas sans s'aliéner à lui. Sous le plan symbolique, la haine trouve son soutien dans la façon dont la pulsion des morts insiste, se réitère dans la compulsion à la répétition, instaurée par les effets des mortifications du langage sur les vivants, mais c'est surtout dans les registres du réel que la haine se déploie pleinement. Elle s'adresse à l'être, et notamment, telle est la leçon de Lacan, elle vise dans l'autre son être de jouissance. Plusieurs références chez Lacan pourraient nous servir de boussole. Pour en citer quelques-unes, il y a tout un développement dans ce premier séminaire sur la haine, compassion de l'être, nouée de la façon la plus intime à l'amour et à l'ignorance. Nous avons aussi la partie du séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, nommée le paradoxe de la jouissance, et également l'un de ses écrits de la même époque, Kant avec Sade. Mais vu que le temps nous est compté, je vais aller droit au but en vous disant un mot sur la façon dont Jacques-Alain Miller reprend dans son cours Extimité quelques points essentiels chez Lacan sur la voie qu'il adopte pour approcher la question de la haine, aussi bien que les deux territoires où elle excelle, le racisme et la ségrégation. Donc, commençons par ces passages. Donc, c'est Miller qui parle. Il ne suffit pas de mettre en cause la haine de l'autre, puisque, justement, ça poserait la question de savoir pourquoi cet autre est autre. Dans la haine de l'autre, il est certain qu'il y a quelque chose de plus que l'agressivité. Il y a une constante de cette agressivité qui mérite les noms de haine et qui vise le réel dans l'autre. Voilà la question située par rapport au registre imaginaire et symbolique tel que nous venons de l'évoquer. Ensuite, Miller nous dit plus précisément ce que la haine déteste dans l'autre. Nouvelle citation. Qu'est-ce qui fait que cet autre est autre? Pour qu'on puisse le haïr. Pour qu'on puisse le haïr dans son être. Eh bien, c'est la haine de la jouissance de l'autre. C'est même là la forme la plus générale qu'on peut donner à ce racisme moderne, tel que nous le vérifions. C'est la haine de la façon particulière dont l'autre jouit. La situation que Miller évoque, pour l'illustrer, date de 1985. Et il faut dire que non seulement elle n'a pas pris une ride, mais elle est plus parlante que jamais. Troisième citation de Miller. Ça fait que les voisins ont tendance à vous déranger parce que il ne fait pas la fête comme vous. Il ne fait pas la fête comme vous, ça veut dire qu'il jouit autrement que vous. C'est ce à quoi vous êtes intolérant. On veut bien reconnaître votre prochain dans l'autre, mais à condition qu'il ne soit pas votre voisin. On veut bien l'aimer comme soi-même, mais surtout quand il est loin, quand il est séparé. Et quand cet autre il se rapproche, il faut vraiment être optimiste comme un généticien pour croire que ça produit un effet de solidarité. Pour croire que ça conduit tout de suite à se reconnaître en lui. Fin de la citation. Donc, c'est tout son mérite à Jacques-Alain Miller, que de savoir tenir des choses, des structures. Ces propos ont beau avoir 30 ans, nous voyons bien que cela touche au cœur de ce dont il s'agit dans la haine et que nous pouvons ordonner ainsi. Donc, petit 1, dans la haine, c'est la constante. Les noyaux durs, increvables, résistant à toute tentative de délectisation, donc hors d'attente par les signifiants, qui désignent son réel. Petit 2, ce qu'elle vise dans l'autre, c'est son réel, son être, en ce qu'il jouit d'une façon qui m'est étrangère et angoissante. Petit 3, ce qui exacerbe cette haine, c'est la proximité de cette jouissance autre, intolérable, dès lors qu'elle pointe les bouts du nez dans mon préau. Une autre précision de Miller signale bien que dans la haine, il faut aussi un pas de plus. Il faut une imputation. Une imputation à l'autre, celle de procéder à un vol de votre propre jouissance, quelle que soit la forme que cela prenne. Il dit ceci. De toute façon, l'essentiel dans cette affaire, c'est que l'autre vous soutire une part indue de jouissance. Ça se place à un autre niveau qui est celui de la tolérance ou de l'intolérance à la jouissance de l'autre. De l'autre, un temps qu'il est foncièrement celui qui me dérobe la mienne. Ce qui est irrécevable dans ces vols de jouissance imputés à l'autre concerne au fond un point qui reste toujours aveugle, le rapport à la castration de chacun et notamment le ne rien vouloir savoir sur le fait que cette perte de jouissance est une perte à laquelle chacun est appelé à consentir justement pour pouvoir vivre avec d'autres dans une communauté humaine. Miller établit ainsi ce lien indéfectible qui fait tourner l'humanité en rond, entre haine et castration. Nous savons, nous, que le statut foncier de l'objet, c'est d'avoir toujours été dérobé par l'autre. Ces vols de jouissance, c'est ce que nous écrivons moins J. J de la jouissance, entre parenthèses, moins J. C'est, vous le savez, l'hématème de la castration. Si le problème a des allures d'insoluble, c'est que l'autre est autre à l'intérieur de moi. La racine du racisme, c'est la haine de sa propre jouissance. Il n'y en a pas d'autre que celle-là. Si l'autre est à l'intérieur de moi, en position d'extimité, c'est aussi bien ma haine propre. Dans son cours de la semaine d'après, Miller reprend cette question en faisant un magnifique rapprochement entre les sujets dits immigrés et les statuts même du sujet, soit ce qui les définit. Donc c'est une très belle citation. Je vous la lis. Miller dit « Mais être un immigré, c'est aussi, disons-le, le statut même du sujet dans la psychanalyse. Le sujet comme tel est un immigré, le sujet tel que nous le définissons dès sa place dans l'autre. Nous le définissons par sa place dans le même. Il n'y a pas d'autre chez soi que chez l'autre. » Pour les sujets, ces pays étrangers et son pays natal. Il y a d'ailleurs quelques significations à ce que la psychanalyse ait été inventée par quelqu'un qui avait, avec ses statuts d'étranger, avec ses statuts d'extimité sociale, un rapport natif. Fin de citation. Avançons que la haine repose pour une part sur une ignorance féroce, voire un rejet de ces points d'extimité pourtant fondateurs, à savoir les besoins pour chacun de nous de trouver dans l'autre ces points d'ancrage constitutifs. Fort heureusement, Jacques-Rénal Miller ne nous quitte pas dans ses leçons sans nous donner une perspective que nous pouvons qualifier d'éthique. La question est de s'y reconnaître comme sujet de la jouissance. Quand l'autre se rapproche un peu trop, eh bien, il y a de nouveaux fantasmes qui portent spécialement sur les surcroît des jouissances de l'autre. Nous voyons bien combien les rêves identitaires, celui qui prend l'harmonie des ensembles égaux à eux-mêmes, fusionnés autour de certains traits des choix, comporte dans son vœu de repli un refus de cette aliénation première et par conséquent les mirages de pouvoir fonder un chez-soi qui s'étendrait en deçà de l'autre. Le souci, et pas des moindres, est que les humains sont prêts à tout pour maintenir cette altérité en dehors de l'ensemble. Mouvement sans lequel nous ne pourrions pas comprendre pourquoi de que cette altérité menace de l'intérieur, c'est le terme des frontières qui envahit la scène. Les discours donc. Les discours pluriels. Quatrième partie, deux sommets haineux pour boucler le XXe siècle. Si la Shoah est venue marquer un avant et un après radical dans les cours de l'histoire, s'il a troué à jamais les champs de la représentation et du disciple, en nous faisant entrer de la façon la plus brutale dans la postmodernité, elle n'a pas produit pour autant un sédiment de savoir, une mesure de fonder un véritable plus jamais ça. Les Khmers rouges tels que les raconte Ritipan dans son livre « L'élimination », c'est un livre récent, d'environ 4 ans, 5 ans, ainsi que dans ses documentaires au cinéma, S21 et compagnie, voilà, il montre combien ces Khmers rouges ont porté au paroxysme l'effectuation dans les réels du délire de Pol Pot, sur ces rizières devenues des camps de rééducation, des étendues de famine à perte de vue, et surtout ce qu'on a appelé des killing fields. Effectuation glaçante, méthodique, d'un discours réalisé, dirons-nous, réalisé, où ceux qui réclament la suppression des proches, des frères des sangs, des compatriotes, n'est rassasié par rien ni personne. Puis, l'Europe d'aujourd'hui, elle-même construite en 1948 sur ce qui s'est dénudé en 1945 lors de la libération des camps nazis devant les yeux des soldats soviétiques et alliés, comme traitement inédit du prochain autre, pris dans les griffes implacable, sans pitié, d'un peuple traversé par la conviction d'incarner le sommet de la civilisation et de la nature humaine. Eh bien, cette Europe-là, ainsi fondée, connaîtra, 50 ans plus tard, une résurgence impitoyable de la haine dans les Balkans. L'envers de ces bonheurs, des ensembles identiques à eux-mêmes, est raconté d'une façon saisissante par le journaliste et romancier Lionel Duroy dans son livre « L'hiver des hommes ». 20 ans après la fin de la guerre de l'ex-Yougoslavie, du roi fait les récits de son séjour dans l'actuelle République serbe de Bosnie, durant lesquels il va de ville en ville pour rencontrer les citoyens de cette minuscule république afin de débarrasser des Croates et des Bosniaques. Du roi veut faire l'état des lieux de ce qui reste deux décennies après que le général Mladic les ait fait vibrer, nous dirons délirer, en leur récitant des poèmes à la gloire de la nation serbe du temps où ces derniers repoussaient l'Empire ottoman aux portes de l'Europe de l'Est. Pendant 4 ans, de 91 à 95, donc Mladic faisait sa promenade bucolique avec ses poèmes, marchant donc les longs des canons posés au-dessus des collines, bombardant sans relâche les citoyens de Sarajevo, qui n'étaient autres que leurs voisins des paliers, côtoyés depuis des siècles, c'est-à-dire leurs autres les plus proches, les plus familiers. Eh bien, ce que les Serbes disent au milieu des livres de Duroy, ça doit être 2006-2007, ce que les Serbes disent au milieu d'un pays ruiné, coupé du monde, sans grand avenir, est très enseignant sur ce que nous avons appelé plus haut avec Jacqueline Miller les noyaux durs de la haine. Ce qui frappe dans les propos des Serbes avec qui Duroy dialogue, c'est que bien qu'ayant eu des années pour constater les conséquences ravageantes pour leur peuple, à savoir le naufrage causé par leur entreprise identitaire, quelque chose de la jouissance mauvaise imputée à l'autre, à l'origine même de la guerre civile, cette volonté imputée aux musulmans de vouloir s'emparer de la nation et des lieux sacrés de l'orthodoxie serbe, se perpétue sous la forme d'une croyance, d'un saint complot qui macérerait sur les places de Sarajevo aujourd'hui, où une revanche bosniaque se préparerait. C'est le point de la haine qui résiste à la dialectique, au constat, c'est un pays ruiné, c'est un pays de chômage, c'est un pays appauvri, la République serbe, où il n'y a rien à faire. Hein. Aux inventaires, donc ça résiste à quoi? Ça résiste aux inventaires du désastre et qui véhicule quelque chose de désespérant, tant cela laisse peu de marche à une quelconque rectification subjective. Cette rumeur sur ce qui conspire la nuit chez les voisins, au marché de Sarajevo ou ailleurs, comme volonté de m'imposer leur jouissance et s'est glissée la nuit chez moi pour en finir avec la mienne, en m'ôtant la vie pendant mon sommeil, est souvent à l'origine de ces gestes qui consistent à aller frapper les premiers l'autre d'un coup mortel avant qu'il n'ait ma peau. Nous sommes bien, évidemment, dans un registre qui a franchi depuis longtemps l'axe de l'agressivité à A', avec son semblable, pour basculer vers le meurtre de cet autre familier, mon voisin. Lacan a montré, dans les quatre conseils fondamentaux de la psychanalyse, qu'un tel franchissement est rendu possible par un effet de discours. Il faut un effet de discours, en fait, pour que cela, on va dire, bascule dans le réel, s'effectue dans le réel. Discours provoquant la collusion freudienne entre l'objet petit a et l'idéal que nous écrivons avec un grand T. Invitant les sujets pris un par un dans une capture collective, dans la foule, à aller au bout de l'impératif catégorique kantien, celui qui permet que l'acte meurtrier ne soit empêché par nulle barrière humaine, beauté, pitié, tendresse, afin que cet acte puisse s'accomplir comme un pur acte, habité par un désir pur, c'est-à-dire une pure volonté nettoyée de ces résidus de la raison qui pourraient faire trembler la main de celui qui lève sa lame sur la tête de son prochain. L'enquête du roi est enseignante, mais elle comporte un point que, en tant que psychanalyste, nous pourrions qualifier de naïf. Du roi est parti en Serbie pour tenter d'éprouver une thèse selon laquelle les suicides de Anna, la fille du général Mladic, qui a milité à ses côtés dans les pires causes durant cette guerre, s'expliquerait ces suicides par une prise de conscience soudaine de la monstruosité du père. Certes, elle a employé les pistolets du père pour se tuer, mais pas les moindres éléments récoltés durant les interviews ne permettent de créditer sa thèse sur un réveil miraculeux et lucide chez la fille quant à la jouissance de papa. Il ne reste alors plus à du roi qu'imaginer, lui, la lettre qu'Anna aurait écrite à Mladic, son père, et ce qu'il imagine, à sa place, fait voler en éclat la rigueur de sa démarche, car les réveils coupables qu'il lui prête est pavé de bonnes intentions, situé à mille lieues du réel qu'il a pourtant récolté entre mont et vallée en endurant. Disons quand même que la question de Duroy est passionnante, sa démarche, car ce qui a motivé son travail, c'est s'interroger sur ce qui se transmet comme patrimoine haineux d'une génération à l'autre, en s'attardant sur la façon dont les enfants des canailles se positionnent dans l'après-coup par rapport aux actes ignobles des parents. Donc, solidarité très parlante dans la haine entre un père et une fille, par exemple. Voilà. Bien. S'il faudrait situer une œuvre qui décrypte de façon particulièrement rigoureuse et éthique ces champs où l'amour du prochain devient haine génocidaire de l'autre les plus proches, c'est sur celle de Jean Hatzfeld qu'il faudrait s'attarder. Nous n'aurons pas le temps de les faire ici, mais disons que ces trois enquêtes éprouvantes sur les génocides rwandais, elles s'appellent donc, vous les connaissez sans doute, « Dans les nus de la vie », « Une saison des machettes » et les troisièmes « La stratégie des antilopes » permettent d'attraper au plus près dans les récits aussi bien des bourreaux que des victimes, cette racine de la haine dans ce qu'elle a de structurel, c'est-à-dire ces patrimoines des barbaries dont seuls les par-lettre ont les privilèges néfastes. C'est surtout dans les récits des tueurs Hutus, donc l'ethnie, une de ces ethnies du Rwanda, que l'on peut cueillir un concentré de haine à l'état pur. Ce sont des récits arraché au compte-gouttes sur un banc de la cour du pénitencier de Niamata. Aucun tueur, bien sûr, n'étant prêt à reconnaître l'erreur commise. Donc, des récits obtenus avec un tact et une patience infinie dans l'immense interstice qui sépare deux démentis. Les premiers constats faits entre deux ethnies de cette nuit ayant cohabité depuis des temps immémoriaux. C'est qu'une fois que l'on appuie sur les boutons de la démarcation identitaire, ce qui a été effectué notamment par les colons belges, les choses glissent progressivement vers la démarcation des jouissances. Dans cette démarcation, les voisins Tutsi, donc c'est l'autre ethnie, c'est lui du même hameau qui promène son bétail pendant que moi, Hutu, je cultive mes terres, m'apparaît comme détenteur d'un privilège et d'une jouissance que la pâleur augustinienne de mon envie ne suffit plus à traiter. Trop riche de ta jouissance et de ta descendance d'une caste royale tutsi qui se perd dans la nuit des temps, tu me renvoies à ma pauvre condition. Tu fais de moi l'esclave, témoin de ton essence. Et ce faisant, tu me dépossèdes d'un objet que je compte bientôt t'arracher. Je veux dire, t'en mutiler. Car je suis prêt à exécuter ce que Radio des Mille Collines répète sans relâche, jour et nuit, en m'échauffant à blanc. L'heure d'exterminer ces cafards des Tutsis vient de sonner. La pièce de théâtre dont je vous parle a tourné en France il n'y a pas longtemps sous le nom de Hate Radio. Ça s'appelle comme ça. On pourrait faire tout un travail sur la question de la voix. Voilà, à la radio qui chauffait à blanc et les termes qui reviennent, n'est-ce pas, chez les Hutus, voilà, qui agitaient les groupes des Hutus, qui allaient tuer les Tutsis, étaient chauffés à blanc avec les mélanges de l'excitation sexuelle qui prend dans les corps et la folie meurtrière, non, les deux mélangés en fait, et arrosés d'alcool la nuit. Pour s'encourager les matins, pour partir en chantant vers les marais, couper tout le monde en morceaux, en chantant. Voilà. Alors, nous tenons là les conditions, les bouillons des cultures de la haine, nécessaires, mais non suffisants, pour déclencher un génocide. Vous avez bien compris que j'ai pris ça comme une illustration de la thèse de Miller, qui lit la haine chez Lacan. Voilà, illustration extrême, bien sûr. Pour cela, il faut encore une fois un déclic qui n'est autre qu'un effet des discours. Il y a toujours ça quand même. Dans les cas rwandais, c'est quoi cet effet des discours? Eh bien, c'est la rumeur d'un complot qui gagne les pays tout entier après les crashs de l'avion présidentiel. La rumeur impute une volonté génocidaire aux autres, aux Tutsis, qui seraient prêts à s'emparer du pays et décimer les Hutus afin de faire régner leur jouissance sans partage. Prenez donc vos machettes avant qu'ils ne viennent vous découper, vous et les autres. Comme vous le savez, quelques essais et une pièce de théâtre montrent bien les supports que cette machine tueuse implacable trouve dans un objet pulsionnel, la voix véhémente, qui encourage sans relâche à aller trouver jusqu'au fond des marais et y revenir autant de fois qu'il le faut pendant un mois et demi, deux mois, pour des mois prochains avoir la peau, pour ensuite m'emparer de sa maison, son potager, ses vaches, sa femme. Ouais, voilà. Donc ça se décline comme ça, c'est très prégnant dans les récits, n'est-ce pas, de comment on s'empare des objets d'après de... Voilà. Du voisin. Les points que nous tentons de cerner ici est les suivants. Ces franchissements sont toujours les produits d'un effet de discours qui fait consister la jouissance de cet autre étranger et familier à la fois du côté d'une menace qu'il faut éradiquer. L'histoire montre l'imparable logique à l'œuvre qui fait que cette sauvagerie n'est pas le privilège d'une époque ni d'un peuple. Donc je pense à aujourd'hui, bien sûr, je pense à notre actualité à nous. Ce n'est pas une autre chose qui est affirmée par la redoutable assertion de Cioran, je cite donc Cioran, qui dit dans Syllogisme de l'amertume la chose suivante: l'heure du crime n'est sonne pas en même temps pour tous les peuples. Ainsi s'explique la permanence de l'histoire. Certes, nulle époque, nul endroit, même ceux que l'on croit les plus protégés par les digues, par les piliers de la démocratie et des droits de l'homme, n'est à l'abri de ces nuits de Saint-Barthélemy que la haine, main dans la main avec la pulsion des morts, s'est déclenché en un clin d'œil. Quand certaines conditions ont macéré sous la laine chaude d'un discours dénonçant à tour de bras la présence dans l'autre d'un danger imminent. En psychanalyse, nous préférons nous orienter de ce retour du même qui va du camp de la mort au marais du Rwanda en passant par Srebrenica, plutôt que de nous ranger sous la bannière d'un optimisme du type « plus jamais ça ». Le discours analytique se doit de faire déconsister les mirages des rêves identitaires par les moyens qui sont à sa portée, ceux de la transmission d'une parole soutenue adressée à l'opinion éclairée. J'ai écrit ça en pensant à la question d'Alain Merlet au mois de mars. Plus que jamais, les psychanalystes qui prennent la parole en public doivent rappeler rigoureusement combien ces mirages qui provoquent l'euphorie collective des lendemains qui chantent au cœur d'un entre-soi mènent toujours à quelque chose qui ne se contente pas de la ségrégation, qui ne se contente pas des ghettos, qui ne se contente pas non plus des expulsions au-delà des frontières. Quand une conjoncture précise de l'histoire permet que ces discours s'emballent et prennent corps en s'emparant des foules, cela débouche toujours sur le meurtre et le sacrifice de l'autre incarnant l'altérité même. Sacrifice sans lesquels, et c'est une question de logique, sous lesquelles, logique des ensembles, sur laquelle il y a des études, le sacrifice sans lesquels l'ensemble rêvant, se rêvant, de se constituer comme un sans autre, ne saurait se refermer. Il y a une impossibilité logique. Voilà, j'ai lu des livres là-dessus qui s'attardent sur la Shoah et tout ça, l'Allemagne nazie. Voilà. Ça ne peut pas se contenter d'exclure à la frontière. Les nazis ont pensé à mettre les juifs à Madagascar. Vous le savez, ça. Quand on lit Eichmann à Jérusalem, à Arendt, il y a tout ça. Ils ont rêvé de ça. Hitler rêvait de mettre toutes les races inférieures jusqu'au fin fond de la Sibérie, dans des camps, jusqu'au Japon, la côte face au Japon. Il rêvait de ça, mais la logique réclame toujours quelque chose d'autre, en fait, voilà, qui est les meurtres. Alors, un siècle religieux. Donc, nous arrivons au 21e siècle. Donc, hélas, nous n'en sommes plus aux prophéties à l'André Malraux. Le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas, mais au constat. Lacan ne s'est fait aucune illusion sur l'idée que les horreurs commises par l'élan des délires collectifs identitaires et racistes au cours du 20e siècle permettraient au par-l'être d'en tirer un savoir et de rêver d'un horizon pacifié pour le 21e siècle. Tel que nous l'avons évoqué lors de la discussion qui a suivi la conférence du mois de mars, et sans faire des Lacan les Nostradamus de la psychanalyse, ces fameuses prophéties sur les nouveaux phénomènes de ségrégation et de racisme sont la preuve de sa lucidité frappante sur les réels propres à la haine. À la haine et à la pollution des morts. C'est donc pas tant une question de clairvoyance que d'appréhension, celle de Lacan, sur l'évolution du discours de la science et ses conséquences sur les champs de la religion et de la croyance. Si, depuis les thèses freudiennes dans Massem Psychologie, haine et pollution des morts se déchaînent collectivement au moment où se produit, à la façon d'une éclipse, la conjonction entre l'objet et l'idéal partagé par la foule, l'on pourrait s'attendre à ce que les déclins des grandes figures paternelles autoritaires, dictatoriales, ainsi que celui des idéaux portés par les grandes bannières idéologiques du XXe siècle, s'accompagnent justement d'une pacification de la civilisation. Or, il n'en est rien. C'est ça les mots qui m'ont intéressé pour aujourd'hui, en fait, c'est ça. Il n'en est rien. Les surmois trouvent toujours de quoi se nourrir ailleurs et ils se montrent aussi gourmands. Les entreprises collectives peut-être pas toutes, mais en tout cas les plus sombres, les plus meurtrières aujourd'hui, ne se font plus sous la bannière des extrémismes politiques, à droite et à gauche, elles se font au nom de la religion. Si les nostalgiques des extrêmes existent toujours et rêvent encore de faire rêver, les peuples appauvris par les dégâts du néolibéralisme à toutes sortes de restaurations, des retours des années dites glorieuses, nous voyons bien que les nouveaux charniers, ceux du XXIe siècle, se font au nom des dieux. Et que ce que nous pourrions appeler, un racisme des huit sens. Les paysages des siècles précédents, les 20e, labourés par les progrès inouïs de la science, délestés des moustaches hitlériennes et des sourcils staliniens, fut celui du déclin des pères, tandis que les femmes se libéraient et partaient à l'assaut du monde. Dans ces paysages qu'il laissait derrière lui, laissant sa blessure du symbolique, avec ses franches frontières, pour s'aventurer dans les vertiges du patou, d'un illimité, préférant au binaire tranché l'ouverture des voies multiples, eh bien, à l'encontre des attentes des Lumières et des espoirs misés sur ces assouplissements des civilisations, gagnés durant des rudes batailles, celle de mœurs et de la raison, disons-le, haine et pulsion des morts, ne connaissent nul relâchement, aucun répit. Il est assez remarquable de voir comment l'effort de Jacques Lacan, qui a passé une bonne partie de son enseignement à délester la psychanalyse de ses vestiges religieux, aussi bien sur les plans conceptuels qu'institutionnel, c'est-à-dire l'institution analytique, l'école, les sociétés analytiques, à la débarrasser de ce qu'il appelait l'erreur freudienne de sauver les pères, ces réveils-là qu'il a voulu apporter à la psychanalyse, parfois, elle, la psychanalyse, si réactionnaire et nostalgique, ne s'est pas accompagnée pour autant de l'espoir dans un monde qui serait lui aussi délesté des ressorts de la croyance. Donc, remarquable les positions de Lacan, n'est-ce pas? S'il a pu pronostiquer que le XXIe siècle serait raciste et religieux, s'il a vu se dessiner à l'horizon ce qu'il a appelé le retour du religieux, c'est qu'il avait aperçu de longues dates les effets de ségrégation provoqués par les discours de la science et la redoutable capacité de la religion à démentir toutes les prémonitions sur sa fin de règne, au nom de ses avancées mêmes. Des progrès inscrivant dans les cieux truffés des trous noirs, des formules et des lois, laissant une place aux saintes lois d'Israël, à la contingence du choc des molécules, se heurtant aux confins de l'univers pour donner lieu à cet accident nommé la vie et autres Big Bang. Nouvelle donne que la religion saura récupérer patiemment afin que dans ces ciels vidés de Dieu et régurgeant des non-sens, lui réinjecter le sien. Cette question est abordée de façon spécifique par Lacan dans les réponses qu'il donne au journaliste italien en 1974. Texte est publié auquel Jacques-Alain Miller a donné un titre percutant, « Les triomphes de la religion ». Lacan met au centre de ses propos l'angoisse que la science suscite quand elle dévoile son potentiel de destruction et les inépuisables ressources de la religion pour donner du sens au bouleversement que la science provoque. Cependant, le réel redoutable que Lacan met en exergue, ce n'est pas ces bactéries fabriquées dans des laboratoires dont il parle dans son texte. Les bactéries qui seraient l'arme ultime venant vider la planète de toute présence vivante. Le réel que Lacan redoute comme étant ce qui revient toujours à la même place, il me semble qu'il les situe à deux niveaux. Premièrement, je les cite, Le réel, pour peu que la science y mette du sien, va s'étendre et la religion aura là beaucoup plus de raisons encore d'apaiser les cœurs. Petit 2, elle, donc c'est encore Lacan, la religion n'étranfera pas seulement sur la psychanalyse, elle triomphera sur beaucoup d'autres choses encore. On ne peut même pas imaginer comme c'est puissant, la religion. À cette perspective où la religion traite l'angoisse en donnant un sens à tout, en trouvant, c'est la formule qu'il emploie, des correspondances, des tout avec tout. Lacan oppose les traitements du réel par la psychanalyse et son approche des symptômes comme ce qu'il y a des plus réels. La voie pour approcher les réels définis comme ce qui ne marche pas et l'angoisse qui en découle est à proprement parler, je les cite, « ce dont s'occupent les analystes, de sorte que contrairement à ce que l'on croit, ils sont beaucoup plus confrontés au réel que même les savants. Ils ne font que ça, ils sont obligés de les subir, c'est-à-dire de tendre les dos tout le temps. » À ces points, ce qui fait la force de l'analyste, il me semble, c'est la façon dont sa cure lui permet, tant bien que mal, comme il peut, de tenir bon face à l'angoisse. Et c'est pour cela que Lacan ajoute, il faut qu'à cette fin, qu'il soit vachement cuirassé contre l'angoisse. Alors j'ai fait quand même une nuance, c'est mon idée, que tendre les dos à l'angoisse n'est pas du tout équivalent à détourner le regard quant au réel. C'est même le contraire. C'est être averti de cette faille, de cette clocherie qui traverse toute entreprise humaine en donnant en même temps les selles à nos éphémères destinées pour prendre acte de son hors-sens, de son « c'est ainsi » pour en faire, plus qu'un soulagement, une force. J'aime beaucoup la façon dont Lacan l'a dit, mais l'analyse, je le cite, l'analyse n'est pas une religion, elle procède du même statut que la science, elle s'engage dans les manques centrales où les sujets s'expérimentent comme désir. Fin de citation. C'est les leviers que propose la psychanalyse, prendre appui sur les réels de cette boîterie qui s'appelle les symptômes, au lieu de l'occulter par des trucages, ainsi que les propose la religion, dont le socle de l'offre irrésistible est toujours, et sans doute plus que jamais, vu la pagaille qui définit notre siècle, substituer aux limites imposées à la vie par les réels, substituer à ces noms de la castration qui sont les épreuves qui constituent toute vie, une perspective d'éternité. Ce que nous pourrions appeler le démenti propre à la religion, cette perspective où se confondent vision du monde et perversion, avait déjà été explorée par Lacan 10 ans plus tôt, en des termes moins tranchants, mais pointant néanmoins les mêmes faits de structure. Je les cite. La religion, c'est en 64, la religion, parmi les modes que l'homme a déposé la question de son existence dans les mondes, et au-delà, la religion comme mode de subsistance du sujet qui s'interroge, se distingue par une dimension qui lui est propre et qui est frappée d'un oubli. Nous ne pouvons évoquer cette dimension opératoire sans nous apercevoir qu'à l'intérieur de la religion et pour des raisons parfaitement définies, séparation, impuissance de notre raison, de notre finitude, c'est là ce qui est marqué d'oubli. La formule de Lacan, en 74, est limpide. Je le cite. La religion est faite pour ça, pour guérir les hommes. C'est-à-dire pour qu'ils n'aperçoivent pas, pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de ce qui ne va pas. Plus qu'un opium du peuple, la religion est le discours le plus incroyable œuvrant au service d'une ignorance féroce, celle qui permet d'occulter au par-lettre les réels, pourtant imminents, bruyants, omniprésents, des symptômes. Si elle parvient à l'occulter, c'est qu'elle est vraiment d'une puissance unique. Les symptômes, dit Lacan, ce n'est pas encore vraiment les réels. C'est la manifestation d'irréel à notre niveau des vivants. Comme être vivant, nous sommes rangés, mordus par les symptômes. L'être vivant est un animal malade. La psychanalyse invite les par-lettres à une assomption de ce réel, considérant qu'il vit mieux quand il parvient à prendre acte de ce réel en tant qu'il comporte l'acceptation d'une chose dont nous ne viendrons jamais à bout, du rapport entre ces par-lettres qui nous sections du mal et ces par-lettres qui nous sections de la femme. S'il fallait mettre un élément qui caractérise les passages à l'acte haineux de notre siècle, il me semble que, à la différence du siècle précédent, ces moments de barbarie ne se font plus sous la commande d'un signifiant maître organisant la foule autour d'un délire collectif, mais d'une réalisation pulsionnelle qui met en avant la dimension de l'objet et du corps dans une pure volonté de sacrifice de soi et des autres. Certes, il y a toujours les insignes, les drapeaux, une lecture des textes religieux d'une littéralité implacable, la référence à un dieu monolithique que l'on fait exister par l'application même d'une lecture qui se veut épurée et rigoriste, mais à la différence des manifestations connues au siècle dernier, ce n'est pas l'horizon de rejoindre un idéal avec un grand T que fait ici fonction d'appel irrésistible, la promesse d'un paradis semble parfois, et encore c'est au cas par cas, et ça, c'est long, donc c'est une question plutôt qu'une affirmation, semble parfois faiblir à côté de ce qui se présente comme la capture, la fascination, à se lier à une cause où la toute-puissance de faire exploser les autres en se faisant exploser soi-même semble être l'élément irrésistible. Cependant, il ne faudrait pas négliger la fonction de ces dieux intraitables de l'islam salafiste, sans compromis hors dialectique.
Merci beaucoup, Camillo. Alors, je ne sais pas là si tout le monde était bien éveillé, mais oui, il nous a lancé sa thèse dans les dernières secondes. C'est-à-dire qu'au fond, il reprend la thèse millérienne comme quoi le siècle, son mathème, ça n'est plus granti l'idéal supérieur à l'objet plus de jouir, c'est l'inverse. Et donc, il applique ce modèle à l'idée que la haine aujourd'hui aussi répond au fait que maintenant, c'est plus au nom de la pulsion que au nom de l'idéal. C'est ça qui va... Que tu as...
C'est une question qu'il me pose.
Voilà, et que tu vas essayer de soutenir...
Septembre, oui, la nuancer en tout cas, septembre.
Voilà.
L'argumenter.
Voilà. Bon, alors moi j'aime beaucoup le style Ramirez, vous l'avez noté, la pâleur augustinienne de mon envie, un analyste nickel-chrome, mon côté dark side, mais tu nous fais penser. Je commence par passer la parole à Véronique Pantier.
Bon, alors je vais poser deux courtes questions. La première, donc, dans Le triomphe de la religion, Lacan dit des religieux qu'ils sont capables de donner un sens vraiment à n'importe quoi. Alors, est-ce que la religion ne vient pas justement distribuer du sens, ouvrir une autoroute de sens à ce qui n'en a pas, à ce point d'innommable et d'irreprésentable qu'est la pulsion de mort? Et par exemple, est-ce que ces petits délinquants que se révèlent être plusieurs des terroristes ayant opéré en Europe, c'est pas tous, mais enfin, il me semble que j'ai entendu que plusieurs avaient fait de la prison, enfin, est-ce qu'ils n'auraient pas la possibilité, grâce au sens que la religion leur tend, de trouver une prise sur laquelle se brancher pour amplifier la pulsion de mort et la haine qui les submerge, leur donner un empan inédit pour le sujet, une ambition démultipliée qu'elle n'aurait peut-être pas eue sans la rencontre avec le discours religieux. Voilà, ça c'est ma première question. Alors, la deuxième, tu parles un peu au début là, de la collusion de l'objet A et de l'idéal, et puis tu reparles à la fin de ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est presque dans le temps d'après ? C'est-à-dire celui où l'objet A comme voile, comme semblant, serait lui-même déchu de sa fonction et où ne resterait que la jouissance pure dont il se faisait l'écho, la pulsion de mort un peu dépouillée de l'habillage que l'objet A maintenait à minima.
Oui, en fait, sur ta remarque, en effet, c'est la question que je me pose, c'est comment ça s'est réparti entre, hein, entre objet hein, et idéal. C'est donc les répercussions dans la civilisation de ce que Jacques Miller, au milieu des années 90, a écrit un mathème petit a, plus grand que grand i, qui est en fait l'entrée dans, c'est le passage de la postmodernité à l'hypermodernité. Hein. C'est ça, ça a écrit ça en fait, moi je lis ça comme ça. C'est l'entrée dans l'hypermodernité, avec la mondialisation, avec Internet, avec tout ça, avec la chute du mur de Berlin, avec la fin de l'Union soviétique, avec tout ça. Donc ça écrit ça. Et donc, voilà, les conséquences de ça au niveau des phénomènes de haine et des pulsions des morts aujourd'hui. J'ai lu pas mal de choses, donc j'ai déjà lu beaucoup de choses pour septembre. Et dans tout ce que j'ai lu, notamment suivant les références d'Élie Glorant, écrit beaucoup sur les sujets. Je l'avais déjà dit un peu au mois de mars, c'est vrai que la question des dieux est très importante, la question de la croyance, bien sûr, la question de la compacticité de ces dieux promus par les salafistes, eh bien, cette unicité de ces dieux-là, elle a toute sa place. Dès là, à se dire que c'est la fonction du grand I, tel qu'on la voit en psychanalyse, qui a beaucoup collectivisé les foules autour du pire hein, au siècle dernier, supériorité à la race, etc. Tous ces délires hein, construits autour d'un trait comme ça, élevé comme un idéal, eh bien, j'ai parfois du mal à voir la place de ça dans ces nouveaux phénomènes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse identifier aussi bien la croyance dans ces dieux sans pitié, hein, très durs, hein, quelque chose de l'ordre du grand T, peut-être parce qu'en psychanalyse, nous avons une idée qui est à la fois très positive, très favorable de ces points grand T qu'il nous faut dans la vie pour nous construire, pour nous tenir. On a aussi une idée de sa dimension d'aliénation. Et c'est pour ça qu'on se sépare aussi des traits idéaux dans une analyse, pour, parfois pour vivre mieux. On se déleste aussi de l'idéal quand il est pesant, parce qu'il est à double tranchant, n'est-ce pas, l'idéal. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'idéal est les points d'où on se voit aimable, c'est les points où je me vois de la façon dont ça me plaît d'être vu, ce sont des définitions de Lacan. Alors tout ça dans l'explosion des corps, tout ça dans les aéroports, stades et salles de concert explosées à Kalachnikov, je dis mal à voir, même dans les propos de kamikazes, dans ce qui est posté avant, après, cette dimension de cette instance du grand T qui serait là comme un horizon à rejoindre. Hein, je ne sais pas, c'est une question. C'est une question. Hein, ouais, bref. Donc voilà. Donc je réponds aussi un peu à ta question avec ça. Alors la religion. La religion, et je pense que plus que les points d'irréprésentables de la pulsion des morts comme étant, je sais pas, comme si c'est démenti, dénié, déni, démenti, je sais pas. Bon, ces points-là, en tout cas, dont ignorés férocement par la religion, je ne suis pas sûr qu'ils concernent des représentants de la pollution des morts, mais plutôt quelque chose qui, en réalisant Freud et Lacan, m'a sauté aux yeux comme étant de l'ordre, tout simplement, de la castration, en fait, dans la vie, de tout ce qui est de l'ordre de la finitude, de nos vies éphémères, du réel, du vivant, des échecs dans nos vies compliquées, au niveau amoureux, au niveau de notre solitude, et que donc là-dessus, notamment sur ces points de décastration, la psychanalyse va faire une toute autre force, va faire de ça, c'est ça, c'est un peu l'invitation paradoxale de la psychanalyse, c'est faire de l'assomption de ces points de manque une force pour vivre mieux. Et là, elle bifurque complètement dans la religion qui bouchonne ça d'une façon qu'on n'a pas pu venir. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand Élie Laurent parle de l'euphorie après 68, c'est l'euphorie intellectuelle partout dans le monde, pas seulement à Paris, pas seulement en France. C'est l'euphorie de tout ça est en train de s'effriter, tout ça commence enfin à déconsister après la Seconde Guerre mondiale. On a toutes les révolutions, on a les Beatles, on a les Stones, on a les hippies, on a Bob Dylan, on a tout ça, on chante, et voilà, et les idéologies, ça ne va pas vivre très longtemps, et Staline et compagnie, et tac, et Franco, il meurt, et Pinochet aussi, on va les traquer après. Et donc, tous ces trucs très durs commencent à s'effriter, avec les pompons serrés sous les gâteaux de l'Union soviétique, et on s'est dit qu'on va vivre mieux. Et Lacan, c'est incroyable quand même, 74, il voit se dessiner 30 ans, 40 plus tard, un autre paysage où il dit la religion va me récupérer, et bien ça ne sera plus du tout, ça ne sera du pas tout, ça ne sera plus des universaux solides, ça sera des illimités, ça ne sera plus les ciels remplis des formules qui écrivent la volonté des dieux. Parce que c'était quand même ça, mais il aura beaucoup, très joliment commenté ça dans son cours plusieurs fois, n'est-ce pas, l'univers, en fait, avec des formules mathématiques qui restent quand même l'écriture de l'existence des dieux. Voilà, et après, on passe récemment à autre chose, où c'est des formules où ce n'est pas la volonté des dieux, c'est plutôt, là-haut, c'est les chaos, et on ne sait pas trop comment ça a démarré au hasard, sans doute, Et si les molécules ont copulé, ils l'ont copulé tout à fait par hasard. Il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de site de rencontre, il n'y avait pas pour la première conception de la vie, ce n'était pas avec une appli. Ça s'est trouvé comme ça, et il y a eu des gaz avec des gaz, et des minéraux avec des minéraux, etc. Et paf hein. Bref. Et donc, ça, on s'est dit, mais bon, la religion est foutue. Et non, ce n'est pas vrai. Vous allez. Éric Laurent, il est souvent à la fois très grave et très drôle quand il commande ça. Là, récemment, la dernière encyclique du pape François, là, actuellement, où il dit qu'il fait parfaitement cohabiter Saint François d'Assise avec les nouvelles lois pour la question de l'environnement et tout ça. Voilà, le développement durable. Et donc, il dit que le pape Francisco, voilà, a très bien son encyclique. Voilà, il arrive à faire marcher tout ça ensemble. Bon, j'ai répondu là un peu comme ça. Et puis, dernière, tu posais la question sur l'objet A comme voile. Et c'est pas l'objet A comme voile, c'est le voile autour d'A. C'est pas pareil. C'est la parenthèse autour des petits A qui en effet, est mise à mal. Tu vois, c'est toujours l'objet, mais ce qui choisit, ce n'est pas l'objet comme voile, il me semble, c'est plutôt ce qui peut envelopper cet objet-là. Et c'est pour ça, sans doute, que Miller s'est autant intéressé pour préparer le congrès de Rio de Janeiro au mois d'avril à la question de la pornographie. Ce n'était pas pour faire brancher, ce n'était pas pour dire oui, il faut parler du porno aujourd'hui, et donc tout le monde y est, les hommes sont accros. Il n'y a pas que ça. Il y avait la question de ce qui choisit comme voile autour du corps. Et maintenant, on va travailler à l'école sur les regards. Et donc, on va travailler sur ça aussi, sans doute, n'est-ce pas, les voiles qui chutent par rapport au réel, cette chute a des conséquences.
Camille Ramirez, eh bien, nous te remercions beaucoup. Merci à vous. Merci à Véronique Pantier. Et merci à la librairie Mola.